Merci de trouver le texte biblique de ce matin. Nous allons lire Genèse chapitre 2, versets 1 à 3. Ça se trouve dans le livret, apparemment. Oui, voilà. Ça se trouve au milieu de votre livret. Merci, Mathieu.
Nickel.
Encore. Et vous avez aussi les points de la prédication sur un autre feuillet pour pouvoir prendre des notes si vous souhaitez faire cela. Si vous avez une Bible à portée de main, ça va être utile parce qu'on va aussi voyager pour les autres points de la prédication. Il va y avoir quatre points de cette prédication. Le texte qui fera l'objet donc de ce message, Genèse chapitre 2, versets 1 à 3, je vais lire. Lisez avec moi. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Et le septième jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le septième jour. Dieu bénit le septième jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. C'est le début du deuxième chapitre de la Bible. Et en un seul chapitre, on est passé de absolument rien du tout à tout de la création, n'est-ce pas? En un seul chapitre, on est passé de « la terre n'était que chaos et vide » à un monde ordonné, magnifique, où tout est parfait. Le jour 6, Dieu avait créé l'homme et la femme, qui sont le couronnement de cette création. Dieu a donné à l'homme et la femme cet énorme privilège d'être ses représentants sur terre, de manière unique, porteur de son image. Tout est bon, tout est vraiment bon. Et donc, on commence cette septième journée. Et on se demande, d'accord, mais à quoi bon? Quel est le but final de toute cette création? Quel est le but de mon existence sur Terre? Où est-ce que je vais pouvoir trouver mon épanouissement? Et c'est pour cela qu'il nous reste, eh bien, le septième jour. On pourrait se dire, peut-être que le but ultime de l'humanité, c'est la tâche que Dieu a donnée à l'humanité, de régner, de dominer sur la création de manière positive sous son règne. C'est peut-être ça. Le but, c'est la gestion de l'univers. Le but, c'est que ça tourne, que chacun mette la main à la pâte, un peu comme une fourmilière cosmique. Eh bien, on se met à l'œuvre et tout bouge et tout bouillonne de vie et c'est très bien. Ce que nous allons voir ce matin, dans nos versets de Genèse 2, c'est que nous n'avons pas été simplement créés pour exister et pour avoir une fonction utile, bien que cela aussi fasse partie du projet, mais que nous avons été créés pour, pour utiliser le terme du texte, pour le repos, ou un synonyme pour le sabbat. Et on va devoir un petit peu travailler ce matin, les amis, pour pouvoir passer en revue ce que la Bible dit sur ce texte, et puis sur ce thème, le repos. Et comment le comprendre à la lumière de toute l'Écriture? Le mot « se reposer » vient deux fois dans le verset pour parler de ce que Dieu fait. Dieu se repose deux fois. Et le terme vient de la forme verbale du mot « sabbat ». Et Dieu fait son sabbat. Deux fois, Dieu fait son sabbat. Et il s'agit d'une réalité très importante dans toute la Bible. Donc je vous propose ce matin quatre points qui sont sur vos feuillets. Le premier sera dans Genèse 2, et puis les autres, on va traverser les Écritures. Premier point, le but de la création, c'est le repos. Le but de la création, c'est le repos. Je vais relire ces versets, ça va être utile de les avoir vraiment dans notre tête. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre, et toute leur armée, toute leur abondance. Et le septième jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa, sabbat. De toute son activité le septième jour. Dieu bénit le septième jour et en fit un jour saint. Parce que ce jour-là, il se reposa, sabbat, de toute son activité et de tout ce qu'il avait créé. Ce monde est rempli et ordonné et tout va bien et tout vit et les animaux sont là et les planètes sont là et toute la terre bouillonne de tout ce qu'il faut. Et puis on arrive à ce septième jour. Et est-ce que vous avez remarqué à quel point ce septième jour vis-à-vis des autres jours est tellement différent? Ce jour-ci, Eh bien, Dieu ne crée pas. Dieu ne parle pas. Dans tous les autres jours, Dieu dit et Dieu fit et Dieu vit que c'était bon. Le premier jour, le deuxième jour. Et le septième jour, Dieu ne parle pas. Dieu ne voit pas dans ce sens-là. C'est un jour à part. C'est aussi un jour à part. Et si vous avez étudié le texte, vous avez peut-être entendu cela, que la semaine de création se divise un petit peu en deux colonnes de ce que Dieu avait regardé un monde chaotique et vide. Dieu le structure et le remplit. Jour 1 à 3 et jour 4 à 6. Jour 1, Dieu structure la lumière et Dieu remplit la lumière au jour 4. Dieu structure le monde au jour 2 avec le ciel et Dieu crée les animaux pour le ciel. Et puis jour 6, Dieu structure la terre et Dieu remplit la terre avec des animaux et des êtres humains. Et donc déjà, le septième jour était un peu à part, n'est-ce pas ? Il ne rentre pas dans le schéma. Jusqu'ici, on a vu que Dieu bénit les animaux. Dieu bénit l'homme et la femme. Et ici, Dieu bénit le jour 7. Et plus que ça, il en fait un jour saint, c'est-à-dire mis à part, dans une classe à part de tout le reste. On pourrait peut-être même dire un jour meilleur. Le septième jour, un jour différent. Alors, c'est un peu technique, mais de ce que j'ai compris dans les commentaires, les versets 2 et 3, le début du verset 3, c'est trois morceaux de phrases avec sept mots. C'est très, très, très bien construit dans la langue originale. Et il est mentionné le septième jour au milieu de chaque phrase. Pour vous donner cette perfection, c'est un jour à part, c'est un jour parfait. Tout ça contribue à comprendre que le septième jour est un jour sanctifié, à part, où Dieu fait quoi ? Dieu se repose. Dieu fait son sabbat. À première vue, moi je trouve cela très surprenant. Comment est-ce que le Dieu de l'univers a-t-il besoin de se reposer ? Il ne faudrait pas croire que Dieu est comme nous et qu'il ait besoin de se mettre les pieds sur un repose-pied après une semaine de travail. Non. Le septième jour, qu'est-ce qu'il fait ? Il se repose spécifiquement de quoi ? Verset 2 ? De son acte de création. Il cesse de créer l'univers. C'est fait, c'est bon. Si Dieu arrêtait de nous tenir, tout se désintégrerait, n'est-ce pas ? Le Fils soutient toute chose par sa parole puissante. Et puis l'Éternel ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. Et Dieu continue de régner de manière active dans ce monde. Mais il se repose, non pas qu'il ait pris un jour de congé, ou qu'il ait passé à d'autres choses qui sont plus intéressantes pour lui. C'est bon, je m'en fiche de cette création. Non, Dieu a commencé une nouvelle ère, ce repos, ce sabbat. Et remarquez que ce sabbat est un jour qui dure. À la fin de chaque jour, jusque-là, 1, 2, 3, il y a eu un matin et il y a eu un soir, le premier jour. Il y a eu un matin et un soir, le deuxième jour. Le septième jour, aucune mention de cela. Donc on peut au moins anticiper à ce stade, peut-être que c'est un jour sans fin, un jour ouvert qui dure. On va voir ce que le reste des Écritures en dit. Et voici donc le but et l'objectif de toute la création. C'est le repos. C'est un sabbat qui dure, où Dieu apprécie ce chef-d'œuvre qu'il a fait. Tout est comme cela devrait vraiment être. Et donc le but de la création, c'est que Dieu cesse de créer pour apprécier ce qu'il a fait. Alors, ce n'est pas la fin de l'activité, mais le début de se réjouir de l'effort. Parce que Dieu est proche. Et au chapitre 3, on voit que Dieu se promène au milieu du jardin avec l'homme. Jour 6, c'était comme la dernière touche finale de l'artiste. Et on dépose le pinceau. Et Dieu, au jour 7, fait un pas en arrière. Et regarde et apprécie le résultat. Tout tourne à merveille. Tout est bon. Vraiment bon. Les animaux ne s'entretuent pas. Il n'y a rien de mal. L'homme et la femme vivent bien, sont heureux, reflétant l'image de Dieu, se soumettant à sa volonté. Dieu regarde et est tellement satisfait. On pourrait peut-être dire qu'il sourit, si vous me comprenez. Avec mon frère, quand on était enfant, lui était grand fan des Kennex. C'est un peu comme les Lego, mais en différence, c'est un jeu de construction avec des tiges et des connecteurs. Et lui, pendant un temps, il avait épargné tout son argent pour s'offrir ce qui était à l'époque le Kennex le plus cher. C'était des montagnes russes avec une voiture qui pouvait faire un looping et ça continuait à l'infini. Et ça faisait plus de 2 mètres de long. On a fait ça pendant des heures. Et à la fin de cela, on s'arrête, on appuie sur le bouton et ça tourne. Et on apprécie le résultat. On apprécie, on regarde, on sourit. À quoi sert donc votre vie? À quoi sert la création? Quelle est la fin et l'aboutissement de cette création? Le but de cette création, c'est de nous faire comprendre le septième jour, cette image de la perfection où tout va bien, où Dieu prend plaisir à sa création. Ou tel un parent qui prend plaisir à un enfant qui a grandi et qui est actif. On est censé vivre avec Dieu au centre, dans sa création, de manière active, en train de faire sa volonté. Le but parfait, l'objectif de cette création, c'est la vie abondante avec Dieu, où l'humanité se soumet à Dieu, le reste de la création se soumet à Dieu, rien ne déstabilise la création, tout fonctionne à merveille. Je pense que ça m'aide déjà à comprendre et à contrer l'image, le mensonge répandu selon lequel Dieu serait nocif pour l'être humain. Si je veux la liberté, si je veux la joie, on va garder Dieu à distance, respectable. Quel mensonge ! Notre nature rebelle nous pousse à imaginer que Dieu serait là pour me pourrir la vie. Si je viens à Dieu, alors ma joie va rétrécir dans ma vie. Dieu voudrait polluer ma vie de corvée. Il n'y a pas plus gros comme mensonge. C'est insensé comme pensée. Qu'est-ce que Dieu a fait ici pour limiter l'humanité jusqu'ici? Rien. Il a tout fait pour le bien. Dieu est bon. Dieu désire qu'on le connaisse, qu'on vive en harmonie avec la création. Peut-être qu'on est en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on devrait faire en termes de gestion de notre planète. Une grande question du jour, l'écologie. Et notre but ultime est de nous réjouir et de vivre ce repos avec Dieu au centre. Ce n'est pas le but de la création simplement d'aller remplir la terre et puis c'est tout. Ce n'est pas le but de notre existence sur terre d'aller simplement créer des sociétés sophistiquées non plus, ou simplement gérer la planète, ou en conquérir les étoiles et les autres planètes, Elon Musk. À quoi bon avoir toute l'écologie en ordre et sous contrôle si on est simultanément en train de rejeter les créateurs? On ne peut pas être en harmonie avec le monde si on met notre Dieu créateur à la porte ou en périphérie. On peut aller plus loin. Le but de mon existence sur Terre n'est pas simplement de faire de l'argent ou de faire une famille ou d'acheter une maison ou d'être confortable ou plus confortable que mes parents. Pas juste le but de ma vie. Ce sont des bonnes choses à faire. On ne va pas les rejeter. Mais nous avons été créés pour vivre en relation avec Dieu. Avec Dieu au centre. Avec Dieu dans notre monde. Jouissant de sa faveur et de sa bonté tout le temps. Alors ce qu'on voit dans Genèse 1 et 2, n'est-ce pas, n'est pas la fin de l'histoire. Il y a eu entre Genèse 1 et 2, et aujourd'hui, Genèse 3, et le péché. Et donc le monde dans lequel nous vivons n'est pas le monde de Genèse 2. C'est un monde en souffrance, vous le savez, avec des pleurs, avec le crime, et des dérèglements climatiques, et des tsunamis, et des feux de forêt, et des conflits, et la mort, et j'en passe. Vous le savez comme moi. Genèse 3 nous montre que ce repos a été déréglé, frustré. Qu'on ne peut pas en retourner en arrière par nos propres moyens humains. Que tout est ruiné. Sauf que le reste de la Bible nous donne de l'espoir. N'est-ce pas ? Ce repos n'est plus accessible à nous, mais point 2, le sabbat est l'ombre du repos. On va aller un peu plus vite maintenant, ça c'était plus long pour le premier point. Le sabbat est l'ombre du repos. Si vous avez une Bible avec moi, vous pourrez peut-être regarder Exode 20 dans les 10 commandements. Exode 20, et on va lire les versets 8 à 11. Car bien que l'humanité soit exclue du repos que Dieu leur donnait, nous ne sommes plus dans ce monde paradisiaque de Genèse 1 et 2, Dieu a donné à son peuple Israël un signe pour les aider à se souvenir du repos de Genèse 2. C'est le signe du sabbat. Le signe du sabbat. Lisons ensemble Exode 20, 8 à 11. Et si vous ne l'avez pas sous les yeux, vous pouvez juste écouter. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Dieu sauve son peuple Israël de l'esclavage en Égypte, afin de les amener à lui pour le connaître, pour connaître qu'il est un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Et l'Éternel leur dit, si vous voulez suivre mes commandements, vous serez mon peuple, une nation sainte, mise à part du reste. Et Dieu, dans sa sagesse, leur donne 10 commandements. Avec ce 4e commandement, prescrit pour Israël à l'époque, pour respecter le sabbat. Un jour de repos est requis tous les 7. C'est le sabbat, jour du samedi. Et ils doivent se souvenir de ce sabbat, non sans raison, c'est pas juste « Oh, j'aime bien vous donner des règles en plus sans vous expliquer cela », non. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Le 7e jour est à mettre à part pour l'Éternel, leur Dieu. Cela aurait été une pratique fort étrange pour les peuples avoisinants. Une loi qui viendrait limiter les bénéfices, qui viendrait limiter la productivité et la prospérité du peuple, alors que les autres peuples bossent à fond ce jour-là. Il fallait faire confiance à Dieu. Et dans un passage analogue d'Éthéronome 5, qui est sur vos feuillets, qui répète les 10 commandements, un détail est donné en plus pour ce 4e commandement. Écoutez, une raison supplémentaire pour expliquer à Israël de respecter ce sabbat. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir avec puissance et force. Voilà pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de respecter le jour du repos. Donc, le but du jour de sabbat, ce signe, est de se souvenir que l'Éternel est leur créateur. Et selon Deutéronome 5, le but de ce sabbat est de se souvenir qu'il est leur sauveur. Il les a sauvés de l'Égypte. Le fait de s'arrêter leur permet d'y réfléchir. Ah mais, c'est qui mon créateur? C'est qui mon sauveur? C'est Dieu. C'est un signe de l'alliance spéciale faite entre Dieu et son peuple à travers les âges. Ce n'était pas un jour pour être inactif, juste pour être inactif. Mais c'était un jour utile pour se servir, pour servir l'Éternel, pour se souvenir qu'il est l'essentiel. Peut-être que nous, on se dit, « Oh, mais des lois comme ça, c'est quand même lourd. Je préfère vivre sans loi. » Mais le sabbat, sous l'Ancienne Alliance, c'est un jour de joie. C'est un jour de rappel. Parce que je peux regarder plus loin que ma petite vie à moi, et mon couple, et mon job, et tout ce que je fais, parce que je suis encadré par qui est Dieu, et le fait qu'il m'a sauvé pour être à lui. Et Israël doit être continuellement rappelé de qui est l'Éternel. Quelle sagesse, donc, de Dieu de placer dans le calendrier hebdomadaire un rappel constant de qui il est, pour avoir un goût de ce que Genèse 1 et 2 exprimaient toujours. Et quand Israël arrive enfin dans le pays promis, le fait d'être dans le pays promis, c'est fascinant cela, est exprimé en termes de repos, en termes de sabbat. Ils ont le repos de leurs ennemis, Et le pays promis, c'est quand Dieu leur donne le repos qu'il leur avait juré. Dans le psaume 95, on voit cela. Je vous ai donné ce repos. Mais, malheureusement, cela n'a pas duré. Parce qu'ils ont péché. Et donc le sabbat, c'est l'ombre du repos. Et je dis ombre parce que Colossiens 2 nous parle de ce que c'est une ombre, de quelque chose de plus grand qui vient. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat, tout cela n'était qu'une ombre des choses à venir. Mais la réalité est en Jésus-Christ. Le sabbat, c'est l'ombre, la réalité, c'est Christ. L'essentiel, c'est Jésus-Christ. Le sabbat, ben, c'était le petit croquis de la réalité qui allait venir. Et donc Israël se trouvait à l'époque de l'Ancienne Alliance, régie par la loi de Moïse. Mais depuis Jésus, sa mort et sa résurrection, les chrétiens sont sous la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Nous ne sommes plus tenus par la loi de Moïse de la même manière. Et donc on se pose la question, est-ce qu'il est bon pour les chrétiens de garder le sabbat ou pas? C'est peut-être une question que vous avez ce matin. Il est bon de réaliser que la loi du sabbat parle du samedi, pas du dimanche, du samedi. Parce que Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine, le dimanche, le Nouveau Testament mentionne la pratique régulière des chrétiens de se réunir le dimanche, à partir de ce moment-là. Alors, pour des raisons pratiques, les amis, c'est une bonne idée de prendre une pause tous les 7 jours. C'est presque légal, j'imagine, pour votre job, de vous donner ça. C'est une bonne idée. Il faut aussi ne pas négliger sa propre assemblée, selon le Nouveau Testament. Et si nous n'arrivons pas à prendre un jour de repos tous les 7 jours, grosso modo, est-ce que nous avons compris notre finitude en tant que créature? Ou est-ce que nous pensons être plus sages que Dieu? Il me semble qu'il n'est pas absolument obligatoire pour les chrétiens de se réunir le dimanche, plutôt que ça pourrait être un vendredi dans certaines parties du monde. Ils peuvent se réunir à d'autres moments, selon les lois des différents pays, peut-être un pays musulman. Certainement, les chrétiens qui veulent mettre le dimanche à part le font pour adorer le Seigneur. C'est pour une d'excellentes raisons. Pour l'adorer, pour se souvenir qu'il est Dieu, qu'il est Sauveur, pour honorer Jésus-Christ. Ce qu'on est en train de voir, c'est que le sabbat avait toujours une portée plus lointaine que juste de faire le sabbat, n'est-ce pas? Ça nous mène à notre troisième point. Jésus, celui qui donne le vrai repos. Nous lisons Matthieu 11, 28 à 30. Et si vous avez une Bible, encore, on peut le lire ensemble. Essayez d'écouter la mention du mot « repos » dans ces versets, le dit plusieurs fois. « Venez à moi, dit Jésus, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences, laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. » Vous voyez, Jésus vient accomplir la loi. Il ne vient pas l'abolir, il vient l'accomplir. Le repos, le sabbat, c'est avoir accès à un monde où tout va bien, comme dans Genèse 1 et 2. Et Jésus est en train de dire, moi j'apporte cela. Moi je peux régler tout ce qui est problématique dans ce monde brisé. Et amener l'harmonie entre les uns et les autres, et entre nous et Dieu. Oui, puisqu'il y a eu toujours un plus grand sabbat à part. Et Jésus n'est pas en train de dire, vous devez respecter une loi de plus. Mais Jésus offre le repos de notre âme. Et quand Jésus est venu, vous connaissez le début de l'évangile de Marc. Quand Jésus vient, tout est bon, tout est parfait, tout est restauré, n'est-ce pas? Les foules s'écrient, nous n'avons rien vu jusqu'ici de pareil. Les hôpitaux sont vides, le mal fuit. Jésus-Christ a l'autorité. Les gens sont guéris. Les péchés sont pardonnés. Que faut-il de plus? Et lorsque les chefs juifs s'opposent à Jésus, prêts à l'accuser, parce qu'il va fort probablement guérir un homme qui est devant eux le jour du sabbat, Jésus fait quoi le jour du sabbat? Il fait exactement ce pourquoi le sabbat a été créé. Pour restaurer ce qui va mal. Est-ce bon, le jour du sabbat, de donner la vie ou d'enlever la vie? Ce n'est pas une question difficile. Souvent, ils se taisent. Parce qu'ils ont déjà pris parti pour s'opposer à Jésus-Christ. Et Jésus accomplit les promesses du sabbat. Même plus, Jésus est venu pas simplement pour le peuple juif, mais pour tout le monde. Pour tout le monde. Comme vous et moi, personne de toutes les nations, tout le monde est invité. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Notre âme est créée pour ce repos, pour être en harmonie avec notre Dieu. Et quand on vient à Jésus, et c'est votre expérience si vous êtes à Jésus-Christ, on reçoit systématiquement la paix et le pardon, la présence de Dieu dans nous, en nous, par son Esprit Saint, ses promesses, parties dans son place dans son peuple, on trouve le repos pour notre âme. Et ce matin, peut-être pour la première fois, vous réalisez, je veux ce repos, je veux être en paix avec mon Créateur. En Jésus-Christ, il vous donne cela. Et donc l'essentiel n'est pas de garder une journée de sabbat, l'essentiel est de venir à Jésus-Christ, la réalité vers laquelle le sabbat pointe, peut indiquer le chemin. Ici-bas, certes, notre expérience est d'être frustré, des relations tendues, des maladies chroniques, un travail peu épanouissant, une santé fragile, des épreuves, la souffrance, le fardeau du péché, la culpabilité, les regrets parfois accablants, qu'est-ce que j'ai fait par le passé, les craintes, les lourdes inquiétudes. Et Jésus dit, je suis venu pour te donner le repos. Il y a une citation célèbre d'Augustin, l'un des pères de l'Église du IVe siècle, qui dit ceci, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. » Et lui, il a compris le sabbat. Porter ses propres péchés, Jésus te les prend avec joie. En Jésus, nous sommes sauvés, justifiés, réconciliés, aimés, pardonnés. Jésus est lui-même le repos dont on a tous besoin. Et cela nous mène à notre quatrième et dernier point. On va faire ça très très brièvement parce que nous ne sommes pas encore arrivés. Le monde entier n'est pas encore soumis à Jésus-Christ de manière complète et parfaite. Et donc on a ce dernier texte en Hébreux 4. Peut-être juste écouter ces versets. Point 4, donc l'attente pour entrer dans le repos de Dieu. Nous lisons dans Hébreux 4, verset 4. En effet, Dieu a quelque part, Genèse 2 peut-être, parlé au sujet du septième jour. Et Dieu se reposa de toute son activité le septième jour. Et puis verset 9, il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Il reste encore un sabbat à venir, selon ce texte. Alors on n'a pas encore beaucoup de temps pour lire ce texte qui avertit en fait les destinataires de la lettre aux Hébreux de ne pas dévier. Ils avaient bien commencé dans la foi, mais ils commençaient à se retirer de la foi, découragés. Et ce texte parle du sabbat, parce que le sabbat, le vrai sabbat, est encore futur. Et on le savait, que c'était une ombre de quelque chose à venir. C'est quoi ? Le vrai sabbat, c'est une place dans un monde parfait, un nouveau cosmos, nouvelle terre, nouveau ciel, où Dieu vit dans sa sainteté et nous invite à lui. C'est la vie éternelle, c'est le repos tel que Dieu l'a toujours voulu. Apprécier Dieu, vivre avec Dieu au centre. Il reste donc un sabbat pour le peuple de Dieu. Et parfois, avec les enfants, on lit des histoires, des contes de fées, et ça se termine toujours de la même manière. Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Et parfois, on se dit, mais est-ce que c'était vraiment le cas ou est-ce qu'ils se sont disputés dans la voiture? On n'est pas trop sûr. Mais on est sûr que la fin de l'histoire de l'humanité entière en Jésus-Christ, ça ne va pas être décevant. Ce sera parfait. Où nous pourrons dire que nous vivrons heureux jusqu'à la fin des temps, avec Jésus-Christ au centre, avec l'harmonie parfaite. Je vais conclure. Dans l'éternité, tout sera repos, sabbat. Dieu nous invite par l'œuvre de Jésus-Christ à rejoindre ce sabbat. Alors rejoindre dans son repos. Il reste un repos à venir pour ceux qui sont à Christ. Un repos qu'on a perdu à cause du péché. Un repos inscrit dans la loi de Moïse comme signe pour nous rappeler, si on était israélite à l'époque, de la nouvelle alliance. Et un repos que Jésus amène. Qu'est-ce qui est nécessaire alors de notre part? Bien, je vais terminer avec la note du sérieux de Hébreux, chapitre 4, verset 1, qui dit « Redoutons donc, alors que la promesse d'entrer dans son repos reste valable, que l'un de vous ne semble être resté en arrière. » Hébreux 4 nous dit « Faites attention à ne pas rater le rendez-vous. » Ne rate pas cela. Il serait possible de se détacher de Jésus-Christ et de rater l'essentiel de ce que Dieu fait dans le monde pour l'éternité. Le repos céleste est accessible par la foi en Jésus-Christ, mais ne le gardons pas à distance respectable, ne le ratons pas. Comprenons donc que notre vie s'inscrit dans le cadre de ce que Dieu est créateur et Dieu me donne une place dans son repos céleste. C'est pour cela que je vis. Je ne vis pas au fond pour des activités terrestres, bien qu'elles soient bonnes en soi, mais pour lui, pour apprécier le temps de ce repos éternellement avec lui. Que ce soit et que ça reste pour chacun d'entre nous le but ultime de notre existence, de vivre avec cela en tête, ce repos céleste pour lequel Dieu t'a conçu, et de dire oui à Jésus-Christ, de rester fermement avec lui dans chaque moment de notre journée. Quel repos, quel céleste repos, n'est-ce pas? Je propose de prier et de demander à l'aide de Dieu pour méditer ces choses-là. Notre Père Céleste, nous te remercions pour cette réalité de ce que tu nous invites à ton repos. Un repos qui est un signe inscrit dans la loi de Moïse pour rappeler au peuple d'Israël que tu es Dieu, que tu es le Créateur, que tu es le Sauveur. Merci parce que Jésus-Christ est celui qui peut réaliser ce repos que nous attendons encore. Donne-nous de persévérer par la foi lorsque nous sommes accablés par bien des épreuves, de nous rappeler l'espérance vivante que nous avons en Jésus-Christ. Et de nous soutenir les uns les autres dans la foi, à nous encourager mutuellement aujourd'hui, si nous entendons ta voix, de ne pas l'endurcir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.